Henri Bataille, Marie Bière, l'accusé. 3 avril. C'est après-demain lundi que Mademoiselle Marie Bière comparaîtra devant la cour d'assises de la Seine. Mademoiselle Bière est cette jeune femme qui, dans la soirée du 7 janvier dernier, vers 9h, rue Aubert, tira 3 coups de revolver sur son amant, M. Robert Gentien, bien connu du tout Paris élégant et mondain. M. Gentien fut atteint au dos et à la jambe droite. Sa vie a été en danger. Actuellement, sa santé n'est plus compromise. Le drame aura, mardi ou mercredi prochain, son dénouement devant le jury. Lorsque, il y a quelques jours, nous annoncions ce procès, nous laissions pressentir qu'il serait un des plus curieux de ce temps-ci. Et c'est en vérité un roman des plus dramatiques, des plus parisiens en même temps, qui va se dérouler devant la cour d'assises. Assurément, depuis l'affaire de la veuve Gras, aucune cause plus émotionnaire n'aura occupé les audiences criminelles. Nous sommes en présence d'une femme étrange, criminelle ou victime, indigne d'indulgence ou digne de pitié. Marie Bière n'est pas de ces accusés vulgaires qui vont tristement du vice au crime et du crime à la maison centrale. Le roman mélancolique de sa jeunesse et le roman tragique de son amour attacheront également l'intérêt. De là, deux faces sous lesquelles nous avons à la présenter avant l'audience, Marie Bière enfant et jeune fille, Marie Bière maîtresse de M. Gentien. Nous réserverons pour lundi matin cette seconde préface la plus longue et voici, en peu de lignes, l'histoire des jeunes années de l'accusé de demain. Elle s'appelait dans le monde artiste Maria Biraldi. Elle est née à Bordeaux. Elle a 31 ans. Nous ne savons si les angoisses de la prévention ont vieilli cette jeune femme ou si nous la retrouverons lundi devant la cour d'assises, belle comme elle était. Elle fut une enfant exaltée, passionnée jusqu'à la violence. Son père était un modeste employé de Bordeaux. Elle reçut, dans un pensionnat de cette ville, l'éducation qu'on donne à toutes les petites bourgeoises, c'est-à-dire qu'elle apprit assez de piano pour jouer sans note fausse les cloches du monastère et qu'elle reçut, moyennant une pension modique, des leçons de maintien. Mais l'enfant effraya les sous-maîtresses par sa précocité intellectuelle et surtout par son étonnante amativité. M. Michon, le savant graphologue, qui fut un jour consulté sur les tendances que révélait l'écriture de Marie Bière, resta frappé de cette remarquable puissance d'aimer. Un personnage du procès a dit que Marie-Pierre avait l'hystérie du cœur. Aussi bien, dans les jeunes années, on put pressentir que cette petite fille était destinée à jouer le drame sur le théâtre de la vie. Marie-Bière aima follement, purement. Il n'y a rien qui doive rappeler ici un roman célèbre, une jeune compagne. Elle l'aima avec cette jalousie folle, ces anxiétés, cette inquiétude perpétuelle que donne le besoin d'avoir à soi une âme, l'âme sœur, dont parlent les poètes. Un jour, Marie Bière s'imagina que cette affection si exigeante n'était plus partagée. L'amie lui parut froide, distraite, indifférente. Alors elle tomba dans une mélancolie profonde et voulut se tuer. L'art la sauva du désespoir. Toute petite, elle s'était éprise de la musique. Elle avait une jolie voix. C'était elle qui chantait les solis au pensionnat, les jours de messe solennelle. La perspective des triomphes du théâtre l'enthousiasmait. À peine devenue jeune fille, elle eut le bonheur d'être encouragée et instruite par des musiciens d'un véritable talent. Des professeurs bordelais prirent sous leur protection la jeune artiste. Et toute petite, Marie-Pierre fut vraiment la muse du département de la Gironde. Mais Paris l'attirait. Elle n'avait pas 18 ans quand elle vint s'y installer avec sa mère. Elle fut présentée à plusieurs compositeurs éminents. Dupré, dit-on, ne daigna pas de travailler à former cette belle voix. Et Marie-Pierre entra au conservatoire. Elle en sortit par un coup de tête. on lui décerna un premier accessite qu'elle dédaigna. Elle dut se résigner à un apprentissage pénible, donner des concerts en province, l'hiver dans les sous-préfectures, l'été dans les villes d'eau. C'était l'art nomade et non plus l'art qu'elle avait rêvé. Dédaigneuse d'ailleurs, elle refusa plusieurs engagements dans des théâtres d'opérette. Ce qu'elle voulait, c'était chanter du Meyerbeer ou du Verdi. Elle eut à l'instant un grand espoir. Elle fut engagée aux Italiens sous la direction Escudier. Mais, à la suite d'empêchements divers, elle ne débuta pas. En 1878, nous la retrouvons toujours errante, attristée, non pas découragée cependant, mais chantant dans les casinos des stations thermales du Midi, à Bagnères, à Pau, à Biarritz. Et c'est à Biarritz qu'elle connut M. Robert Gentien. M. Gentien avait alors environ 30 ans. Bien qu'il fût grand propriétaire dans la Gironde, il vivait peu dans ses terres. C'était, c'est toujours, un Parisien fanatique du boulevard. Aimable, beau cavalier et dans sa tenue, la correction même, il adorait l'existence facile et désœuvrée. C'était un fidèle des premières, des courses et des villégiatures modernes. Nous ne savons sous quel jour les débats mettront la physionomie de cet homme. Mais, d'après les faits même du procès, il est possible de l'entrevoir déjà, pratique, positif, ami de son plaisir, ayant surtout horreur des scènes, des compilations, et en général tout ce qui pouvait nuire aux agréments de la vie. Sa première lettre à Mademoiselle Bière, à sa chère Miss Fauvette, comme il l'appelait, révélait un tempérament peu poétique. En homme pressé et habitué au succès facile, il ne faisait pas d'invocation aux étoiles. M. Robert Gentien dut simplement et singulièrement se méprendre sur le caractère de celle dont il ambitionnait la conquête. Évidemment, il crut entamer une liaison à bail limité. Il pensa qu'après quelques mois d'un parfait bonheur, qui lui coûterait plus ou moins cher, le divorce se ferait par consentement mutuel, sans éclat, sans scandale, comme cela se passe d'ordinaire dans le monde où l'on sait s'amuser. Il voulait bien faire un caprice, mais une passion, non pas. Et ne prévoyait guère que la jeune femme prendrait au sérieux ses protestations amoureuses. C'est pourtant ce qui arriva. Il est impossible de juger avant le procès si Marie-Pierre a été une comédienne. Elle serait dans ce cas une comédienne merveilleusement forte. Mais il est certain que dès le premier jour, elle parla et écrivit à son amant comme une femme qui commence le roman de toute sa vie. Ses premières lettres débordent d'enthousiasme, de passion. On dirait qu'il y a, c'est l'accusée elle-même qui l'a écrit, un peu de folie dans cet amour. Certes, Marie-Bière n'a jamais essayé de prétendre que M. Robert Gentien lui eût promis le mariage. Mais elle n'était pas femme à trahir ce qu'elle appelle ses serments de jeune fille pour une aventure de 3 mois. C'est au mois d'octobre 1877 à Paris que Mademoiselle Bière devint la maîtresse de M. Gentien. Il y eut quelques semaines d'un bonheur sans nuages. Puis M. Gentien partit pour un long voyage d'agrément à travers le midi de la France, l'Italie, l'Algérie et l'Espagne. Une correspondance active, s'échangeait, passionnée et parfois inquiète de la part de Marie-Bière. Joyeuse et insouciante de la part de M. Gentien, qui ne tarissait pas en éloges sur les femmes kabyles. Et c'est ici que se place le premier épisode du drame. Mademoiselle Bière, qui était allée à Bruxelles où elle devait débuter dans un opéra comique « La fée des Bruyères », vit tout à coup sa santé s'altérer et elle perdit presque complètement la voix. Elle consulta, les médecins lui apprirent qu'elle était grosse. L'accusée avertit immédiatement son amant. Que se passa-t-il? Quel avis donna M. Gentien? Marie-Pierre a formulé contre lui une accusation extrêmement grave. Elle a déclaré avec une grande énergie que M. Gentien lui avait donné le conseil de recourir à un avortement. Elle a même raconté, et elle racontera sans doute à l'audience, certaines visites qu'elle aurait faites sur le conseil de son amant, un médecin parisien qui se serait mis à sa disposition en lui proposant de faire disparaître immédiatement la grossesse ou de faire porter à l'hospice des enfants assistés le petit être qui allait naître. M. Robert Gentien a, nous devons le dire, protesté contre ces accusations avec la plus grande indignation. Il a mis son ancienne maîtresse au défi de prouver ce qu'elle avance. Au reste, la grossesse se termina sans incident. Marie-Pierre assure qu'elle repoussa avec une sorte d'effroi toutes les suggestions criminelles et elle accoucha le 4 octobre 1878 d'une petite fille qui fut déclarée sous le nom de Marie-Louise, enfant naturel de Mademoiselle Bière, artiste lyrique et de père inconnu. La naissance de ce pauvre petit être allait singulièrement dramatiser la situation. Un instant, Mademoiselle Bière s'était bercée de l'espoir que la présence de sa fille rapprocherait d'elle M. Gentien, et peut-être lui ramènerait-elle pour toujours. Mais elle éprouva bientôt, dit-elle, que Robert serait le plus indifférent des pères, comme il était déjà le plus lassé des amants. S'il faut l'en croire, il aurait manifesté une aversion véritable pour cet enfant dont il n'avait pas souhaité la naissance. Il aurait même refusé positivement de l'avoir jamais. Ce qui est certain, c'est qu'il avait assez de cette liaison qui tournait au drame. Il voyagea encore plus que par le passé. Ses lettres devinrent froides, ses visites, quand il était à Paris, étaient rares et cérémonieuses. Il finit par écrire à sa maîtresse qu'une affaire industrielle dont il allait s'occuper lui prendrait désormais la plus grande partie de son temps. C'était la signification d'une prochaine rupture. Et cette rupture fut provoquée par une scène des plus dramatiques. La pauvre petite fille était morte à l'âge de 6 mois, d'une bronchite. Cette mort surexcita encore davantage l'exaltation de la mère. Marie Bière paraît avoir éprouvé une douleur des plus violentes. Seule désormais, car toute cette aventure lui avait aliéné sa famille, déçue dans tous ses rêves de bonheur, ou, si l'on croit qu'elle fut une comédienne dans tous ses projets ambitieux, elle écrivit à M. Robert Gentien des lettres folles, tour à tour respirant la haine ou pleines des protestations d'un amour enthousiaste et incompris. Dans ses visites, toujours plus espacées, M. Gentien ne savait comment faire pour calmer cette tête en délire. Marie Bière ne parlait plus que de suicide et elle acheta un revolver. Un jour que son amant était près d'elle, la jeune femme tira cette arme et l'appuyant contre son front, menaça de se tuer sur place. M. Gentien la désarma et s'enfuit. Il était positivement épouvanté de l'énergie de cette femme dont il n'avait pas soupçonné le caractère. Mais qu'allait-il devenir avec une pareille maîtresse? Qu'allait devenir la vie calme et exempte de soucis à laquelle il tenait tant? Revenu chez lui, il écrivit froidement à Marie-Pierre. Il lui signifiait qu'un homme du monde, un homme comme il faut, ne doit pas s'exposer deux fois à de pareilles scènes et qu'il ne la reverrait pas au moins de quelque temps. Il ajoutait que Marie pouvait compter sur son amitié et qu'il lui continuerait exactement sa pension de 500 francs par mois. La jeune femme mit tout en œuvre pour ramener son amant. « Elle l'aimerait toujours, malgré tout, » écrivait-elle. Puis elle voulait avoir un autre enfant à chérir. M. Gentien resta froid. Alors, Mademoiselle Bière en arriva à le menacer de faire du scandale, de prévenir sa famille de ce qui s'était passé. Elle ne voulait pas, dit-elle, vivre à sa merci comme une mendiante d'une rente aléatoire. Abandonnée, déshonorée, n'ayant plus sa belle voix d'autrefois, elle n'avait d'autre ressource que de chercher une existence honorable en donnant des leçons, et elle mettait M. Gentien en demeure de l'aider à organiser sa nouvelle vie. M. Gentien répondit que ses menaces ne l'effrayaient pas. Cela se passait au mois de novembre dernier. Nous approchons du dénouement. Marie-Pierre avait décidé la mort de son amant. Elle voulait venger sa fille et, dit-elle, se suicider après. Elle écrivit derrière une photographie de M. Gentien ces mots. « Robert condamné à mort par moi, Marie. » On a retrouvé chez elle un cahier de verre d'une facture enfantine et des notes intimes qui témoigneraient que pendant plus de 2 mois, elle a suivi et épié son amant au théâtre, au bal, dans la rue, guettant l'occasion de tirer sur lui, peut-être n'en trouvant pas la force. Au commencement de janvier, on lui apprit que M. Gentien avait une nouvelle maîtresse, une actrice d'un théâtre de genre dont le nom sera dit à l'audience. Alors Marie-Pierre s'alla poster des heures entières en voiture, le revolver armé, devant la maison de son amant. On sait le reste. Le soir du 7 janvier, à 9h, la jeune femme aperçut M. Gentien. Il sortait, ayant au bras l'artiste dont nous venons de parler. L'accusé s'élança hors de la voiture, fit quelques pas et tira. M. Robert Gentien tomba grièvement blessé à la jambe droite et au dos. Et Marie-Pierre se laissa arrêter sans résistance. Telle est cette femme, l'héroïne du procès d'aujourd'hui. Est-ce une ambitieuse, à l'affût d'un mariage riche, qui a merveilleusement joué la passion et n'a pu pardonner à son amant de lui avoir échappé? Est-ce une pauvre fille confiante, romanesque, que les désillusions et la ruine de toutes ses espérances de bonheur ont poussé jusqu'au crime? Les débats qui s'ouvrent ce matin nous l'apprendront. L'interrogatoire. À 10h30, Marie-Bière est amenée dans la salle de la cour d'assises. La malheureuse femme est dans un état qui fait pitié. Elle se traîne à peine et se laisse tomber plutôt qu'elle ne s'assied sur le banc des accusés. Un mouvement général de sympathie se produit dans l'auditoire. On sent que la pauvre fille a dû terriblement souffrir et rarement le désespoir a pu exercer plus de ravages sur un visage humain. Marie-Pierre est d'une maigreur effrayante. Sa taille, autrefois grande et svelte, semble déjà voûtée. Le teint est d'une pâleur livide, presque verdâtre. Les joues sont profondément creusées. Les traits, fins et purs, apparaissent comme effacés. Un cercle noirâtre entoure les yeux, grands, bruns, brillants de larmes, d'une douceur infinie. Marie-Pierre est sévèrement vêtue de noir. Un chapeau rond, très simple, est posé sur ses cheveux. Ils sont d'une jolie nuance châtain. Quelques mèches, coupées courtes et bouclées, à la mode actuelle, retombe sur le front d'un blanc mat. L'accusé s'appuie d'une main sur la barre et son mouchoir sur les yeux écoute dans une attitude d'indicible accablement l'acte d'accusation dont lecture est donnée par M. le greffier Blondeau. La lecture terminée, le huissier fait appel des témoins. Ils sont au nombre de plus de 60. M. Robert Gentien est cité le premier sur la liste. Il marche lentement, péniblement, car la balle dont il a été atteint à la jambe droite n'a pu être extraite. Parmi les autres témoins, beaucoup d'artistes, que nous retrouverons tout à l'heure, et plusieurs professeurs du conservatoire, les anciens maîtres de l'accusé. L'assistance est énorme, on s'étouffe. Derrière la cour, nous en remarquons M. Alexandre Dumas. Jamais cause criminelle ne dut piquer davantage ce grand analyse de l'amour. Près de lui, M. Gondinet, M. Adolphe Belot, M. Paul de Cassagnac, M. Ludovic Alévi. Et dans la salle, le monde des théâtres, surtout, est représenté. Nous apercevons notamment M. Daubray et Mme Péchard, crânement installés à la tribune des avocats. M. l'avocat général Lefebvre de Vieilleville occupe le siège du ministère public. Maître Lachaud est assis au banc de la défense. 11h sonne, lorsque M. le président Bachelier qui a eu constamment beaucoup d'égard pour l'état de souffrance dans lequel se trouve l'accusé, procède à l'interrogatoire. Ceux qui pensaient qu'en sa qualité de femme de théâtre, Marie Bièvre allait se défendre sur un ton déclamatoire avec des tirades sentimentales et romanesques ont été singulièrement trompés dans leur attente. Il est impossible de répondre plus simplement, plus doucement et aussi plus dignement que ne l'a fait l'accusé. Marie Bièvre a été vraie d'un bout à l'autre. Ceux qui l'ont entendu n'ont pu s'y méprendre. Monsieur le Président Bachelier commence par examiner, en quelques demandes, le fait matériel de la tentative d'assassinat. Vos noms, prénoms, votre profession. Marie-Hélène, 31 ans, née à Bordeaux, artiste lyrique. Le 7 janvier dernier, à 8h du soir, vous avez tiré 3 coups de revolver sur Monsieur Gentien. Vous l'avez attendu, caché dans une voiture, devant la porte de sa maison, 17 rue Aubert. Il sortait avec une dame quand vous êtes précipité vers lui. Oui, monsieur. Vous l'avez tiré un premier coup de revolver qui l'a blessé à la jambe droite. Monsieur Gentien est tombé. Vous l'avez de nouveau visé à bout portant et vous l'avez atteint dans la région supérieure du dos. Un troisième coup a été détourné par des passants qui se sont jetés sur vous et vous ont désarmé. Oui, tout cela est exact. Vous aviez, avez-vous dit, choisi l'heure où la rue est le plus déserte pour rendre l'attentat plus facile. C'est vrai. Reconnaissez-vous que vous aviez l'intention de donner la mort, Monsieur Gentien? La mort, oui. Vous avez déclaré que vous aviez tiré sur Monsieur Gentien pour venger la mort de votre enfant. Oui, c'est pour cela. Il y avait plusieurs jours, n'est-ce pas, que vous guettiez votre ancien amant. Oui, 4 jours. Je venais l'attendre en voiture devant sa porte pendant des heures entières. On a trouvé chez vous des lettres, des notes et des pièces de verre qui semblent indiquer que votre projet était depuis longtemps arrêté. Oh oui, monsieur le Président, oui. De telle sorte que la préméditation est certaine et que le guet-apens peut être contesté. Marie Bièvre fait un signe affirmatif. Monsieur Bachelier aborde l'examen de la vie de l'accusé. Vous êtes né à Bordeaux, vos parents étaient pauvres, très honorables. Vous avez manifesté toute jeune de brillantes dispositions pour la musique. À quelle époque êtes-vous venu à Paris?
C'était en 1869.
Vous êtes entré au conservatoire, vous en êtes sorti parce que l'on vous avait décerné un premier accessit de chant, alors que vous croyez avoir mérité un premier prix. Vous avez été ensuite engagé successivement au théâtre lyrique et au théâtre italien, mais vous n'avez pas trouvé de situation qui vous parut digne de votre mérite. Vous étiez mécontente, n'est-ce pas?
C'est vrai.
L'instruction a entendu, et nous entendrons tout à l'heure, des artistes et des professeurs, qui rendent un témoignage unanime de votre excellente tenue et de la dignité de votre conduite. Vous gagniez votre vie à chanter dans les concerts, surtout en province. Et c'est ainsi qu'en septembre 1878, vous vous êtes trouvé à Biarritz. C'est à Biarritz, on le sait, que Marie Bièvre rencontra M. Gentien. Votre situation digne d'intérêt, votre réputation irréprochable, vous avez créé beaucoup de sympathie. Vous aviez beaucoup d'amis. Et c'est par l'intermédiaire de l'un d'eux que M. Gentien vous fut présenté. Et il m'a tout de suite fait la cour. M. Gentien, n'a-t-il pas dit que vous aviez fait preuve vis-à-vis de lui de quelque coquetterie, qu'enfin vous l'aviez, comment dirais-je, distingué? L'accusé, souriant tristement. Moi, coquette? Monsieur le Président, je voudrais rien dire qui vous blesse, ça, mais je passe et je constate seulement que des relations polies, familières, élégantes s'établirent immédiatement entre vous deux. D'ailleurs, votre mère ne vous quittait pas. Mais il y a, dites-moi, une journée qui a marqué particulièrement dans votre vie. Je veux parler de cette excursion que vous fîtes à Saint-Sébastien en compagnie de M. Robert Gentien. C'est ce jour-là que vous vous êtes mise d'accord avec lui, n'est-ce pas? Vous l'avez promis que vous le reverriez à Paris.
Oui, monsieur, c'est vrai. Vous trouviez, avez-vous dit, monsieur Gentien, beau, élégant, aimable, bien élevé, très empressé. Mais oui. Vous n'avez rien dit à votre mère? Ah non, elle n'a rien su. Voyons. Vous aviez alors 28 ans. Vous n'étiez plus une enfant. Une jeune fille inexpérimentée. Vous viviez depuis 10 ans dans le monde des théâtres. Vous avez dû parfaitement comprendre ce que M. Gentien attendait de vous. Mais l'accusé baisse les yeux et ne répond pas. Revenu à Paris, vous avez trouvé M. Gentien qui vous attendait à la gare. Il vous a mené chez lui, rue de Vienne. Là, vous vous êtes donné à lui librement. L'accusé, avec tristesse, il m'avait fait comprendre qu'il se conduirait en galant homme. Bientôt, les parents de M. Gentien étant venus à Paris, votre amant dut vous éloigner de sa maison. Il vous installa dans un appartement garni, rue de Hanovre. Vous y rendiez tous les 2 jours, et c'est là qu'avaient lieu les entrevues. Votre famille habitait alors boulevard des Italiens. Votre mère ne savait rien. Et un jour, la concierge vous a vu sortir de la maison de la rue de Hanovre. Elle a tout compris et vous a fait de vifs reproches. Oui, et elle prévint ma mère par lettre anonyme. Je dois reconnaître que vous avez toujours fait preuve d'une grande soumission envers votre mère. Elle fut indignée et courut chez M. Gentien. Il y eut là une scène de reproches les plus violentes. Votre amant fut contrarié et alarmé. Il vit sa vie troublée. Il redoutait par-dessus tout le scandale. Et il a été servi à souhait. Il craignait principalement que sa famille n'eût avis de sa liaison avec vous. Dès lors, il a voulu rompre, ce n'est pas douteux. C'est à ce moment que M. Gentien a entrepris ce long voyage à travers l'Italie, l'Algérie et l'Espagne dont nous avons parlé. Chassé par sa mère, dont l'honnêteté sévère ne pouvait s'accommoder d'une telle liaison, Marivière obtint un engagement aux fantaisies parisiennes de Bruxelles et partit pour la Belgique. Le président. Vous deviez débuter dans un opéra comique, La Fée des Bruyères de M. Samuel David. Vos appointements étaient fixés à 1 000 francs par mois. À Bruxelles, vous logeâtes chez une amie, Madame Bernard, et votre conduite fut exemplaire. Mais à cette époque, votre santé s'altéra profondément. Vous perdîtes la voix. Vous étiez grosse. Vous avez averti immédiatement M. Gentien qui reçut votre lettre à Naples. Oui, Monsieur le Président. Et vous n'ignorez pas que j'arrive ici à l'une des parties les plus importantes de votre interrogatoire. Il s'agit de l'avortement, mouvement général d'attention. Vous avez porté contre votre amant une accusation qui, si elle est fausse, est abominable. Vous avez dit que M. Gentien vous avait poussé à vous faire avorter. L'accusé, se dressant avec énergie. Oui, je l'ai dit, et c'est la vérité. Vous avez vu à Bruxelles un médecin qui vous a ordonné de petites choses inoffensives. Cependant, vous avez écrit à M. Gentien que vous étiez torturé par une sage-femme. Oui, c'était un mensonge. Oh, un bien petit mensonge. Je souffrais en réalité beaucoup. J'espérais qu'en insistant un peu sur ce sujet, je l'amènerais à renoncer à son objet. Mais M. Gentien proteste qu'il ne vous a jamais donné un pareil conseil. L'accusé d'une voix vibrante. Ah, il nie? Ah, mais je prouverais bien le contraire. Je ne juge pas, M. Gentien. Ce qu'il a fait regarde sa conscience. Mais il ne faudrait pas l'accuser faussement. Ce serait odieux. L'accusé, avec une énergie croissante. C'est la vérité, la vérité, la vérité. À son retour, au bout de 5 mois, il a exigé que j'allasse trouver le docteur Rouche, un médecin de la rue Cadet, qui devait, disait-il, me faire passer ma grossesse. Vous êtes allé chez Monsieur Rouche? Oui. Et que vous a-t-il dit? Bon, il a commencé par me demander 1 500 francs, puis 1 000 francs. Alors, vous avez dit 3 000 francs à votre amant. Oui, pour l'effrayer, par l'importance de la somme. Mais après quelques mots, le docteur, me sachant artiste, se mit au piano, me pria de chanter une romance, qui l'accompagna et finit par me dire qui me ferait l'opération pour rien. Le docteur Rouge sera entendu comme témoin. Il a déclaré, dans l'instruction, qu'il avait agi avec vous suivant son habitude, c'est-à-dire qu'il avait essayé de vous faire prendre patience jusqu'à ce que la grossesse fût trop avancée pour que l'avortement fût possible. Et en réalité, il ne vous a rien ordonné.
Non.
Alors où est la preuve que M. le Grandien vous a poussé à vous faire avorter?
Ma concierge.
Votre concierge ne sait pas ce que vous lui avez dit. Je constate que votre accusation paraît mal fondée.
Mais elle est vraie, cependant.
Mais M. Gentil a fini par dire que vous étiez folle. Et vous ne l'êtes pas?
Ah non, pas du tout.
Marie Bière accoucha le 22 octobre 1878 d'une petite fille, comme nous l'avons dit.
M. Gentil était là de vous. Il ne voulait pas, pour ménager ses bonnes relations avec sa famille, passer publiquement pour votre amant. Toutes ces complications l'ennuyaient. Il était décidé à rompre.
Et la veille de mon accouchement, il vint chez moi, furieux. Il éclata en reproches et il me laissa dans un état abominable. Il voulait tuer la mère et l'enfant.
Calmez-vous, calmez-vous. Ce qui est certain, c'est qu'il était bien déterminé à ne pas le reconnaître. Il ne voulait même pas que vous le reconnussiez. Vous êtes accouché secrètement à Montmartre. La petite fille a été remise à une nourrice de Saint-Denis.
Mais c'est Robert qui l'a exigé, cette séparation.
Nous arrivons ici à un passage vraiment dramatique. Marie Bière s'est dressée, les yeux humides de larmes, levés au ciel, la voix brisée par les sanglots. Elle parle d'un ton saccadé, elle est haletante. Le souvenir du pauvre petit être mort l'étouffe. Monsieur Lantien, n'est-ce pas, n'a jamais voulu le voir, cet enfant.
Non, jamais, jamais. Cet enfant, son enfant, c'était sa petite bête noire, comme il disait. Elle lui faisait horreur.
L'enfant est morte au bout de 6 mois.
Hélas!
Elle est morte d'une bronchite à Saint-Denis. Vous avez dit que votre amant était la cause de cette mort, parce qu'il avait exigé qu'on l'éloignât de vous.
Oui, il l'a privée de mes soins. La pauvre petite en est morte. Tenez, cet homme. Un jour, j'avais fait venir la nourrice chez moi. Je voulais que Robert connût sa fille. Je pensais que s'il la voyait une fois, il l'aimerait. Alors, quand il est venu, je l'ai pris par la main et montrant ma chambre. « Elle est là, Robert, lui ai-je dit. Veux-tu la voir ?» Et il s'est mis dans une violente colère. « Cet enfant me fait horreur » a-t-il crié. Il a voulu s'éloigner. Alors je l'ai retenu et le regardant bien en face, je lui ai dit « Votre vie, Robert, est attachée à cet enfant. Si elle meurt, vous mourrez, car je vous tuerai. »
Longue sensation dans l'audience. Marie Bière, épuisée, retombe sur son banc. C'est à peine si elle peut répondre d'une voix affaiblie aux questions qui suivent.
Que signifie ces mots écrits par vous derrière une photographie de votre petite fille? Je donne ma vie et celle de son père à mon enfant.
Oui, je voulais tuer Robert, me tuer ensuite.
Un jour, Gentien a voulu cacher un revolver qu'il trouva dans votre chambre. La petite fille vivait alors. Et vous avez dit d'un ton singulier à votre amant,
« N'ôte pas cette arme. L'enfant n'est pas mort, ne craint donc rien, Robert. »
Mais comment se fait-il qu'après la mort de votre fille, vos relations aient continué avec votre amant?
Moi, je voulais... J'espérais avoir un autre enfant.
Et elle ajoute avec une douceur d'intonation pénétrante,
« Les mères me comprendront. »
Nous touchons à la dernière partie du drame. Le dénouement est proche. Monsieur Gentien ne veut plus à aucun prix de cette femme qui pleure, de cette maîtresse qui fait des scènes. Le 30 juin 1879, il se rend chez Marie Bière et lui signifie qu'il est décidé à rompre.
Assez beau, vous avez pris un revolver dans votre armoire. Vous avez voulu vous tuer sous les yeux de votre maman. Oui. Et ne vouliez-vous pas le tuer lui aussi? Non. Qu'a-t-il fait? Bien, il a pris le revolver et il m'a dit « Adieu, vous ne me reverrez plus ». En effet, vous ne l'avez plus revu. Vous lui avez écrit vainement. Il avait d'autres liaisons. Un jour, vous avez voulu pénétrer chez lui. Et vous avez surpris une femme, une maîtresse nouvelle, qui a eu à peine le temps de se cacher dans un cabinet de toilette. Vous envoyiez à Robert des lettres exaltées. Vous glissiez sous sa porte des billets comme celui-ci. « Robert, Robert, je t'aime, reviens à moi, je ne suis plus folle. » Il a été ennuyé de tout cela, il vous a écrit que sa passion de galant homme était à bout. Et Monsieur le Président donne lecture de cette lettre, que voici. Paris, 9 juillet 1879. « Ma chère amie, j'ai besoin de me remettre de la scène de l'autre jour. Si étrange qu'ait été cette scène du revolver, elle n'en constitue pas moins contre vous de nouveaux griefs. Il pouvait en résulter un scandale public dont je devenais le triste héros. Vous trouverez bon que je m'abstienne d'aller vous voir. Je ferai ce que je vous ai promis, mais à la condition expresse que, soit par votre attitude, soit par nos actes, vous ne ferez rien qui puisse m'atteindre, soit dans ma tranquillité de chaque jour, soit dans ma considération d'homme du monde. Je vous prie de ne pas venir non plus chez moi. Ma décision est irrévocable. Toute démarche serait inutile. Vous recevrez fidèlement votre pension. Allons, de la raison, de la tête et de la volonté. Tout à vous, Robert. » Monsieur le Président reprend l'interrogatoire. « Monsieur Jardin, vous continuez en effet votre pension. 500 francs par mois. » Cette pension faisait horreur. Cet homme me croyait quitte avec de l'argent. C'est un misérable, un lâche, un vilain monsieur. Mais Dieu est juste, il sera puni. Mais pourquoi alors l'avez-vous poursuivi de demande d'argent? Pourquoi l'avez-vous menacé de prévenir sa famille? Tenez, cette lettre. Et Monsieur le Président cite la lettre que voici. 25 octobre. Robert, je commence par vous déclarer que je vous déteste autant que je vous aimais. Je suis bien décidé à vous tourmenter autant qu'il sera en mon pouvoir de le faire. Je vous donne 3 jours pour me procurer 3 000 francs. Ce délai passé, j'écris à votre beau-frère. Je vous engage fortement à éviter ce petit scandale de famille. Marie. Et Monsieur Gentien répondit, 27 octobre, « Fille, que c'est laid, mademoiselle, de parler en pareil terme à un galant homme. Ne plus vous vous trompez absolument. Complètement libre et indépendant, il n'a que faire de vos tentatives de chantage. Ce qu'il fait pour vous, vous le devez à son bon cœur. Rien ne lui oblige. Sachez-le. À bon entendeur, salut. » Un philosophe. Marie Bière protesta avec indignation contre cette interprétation de sa lettre et elle écrivit « 1er novembre, Robert, vous avez tort de douter de l'immoralité, d'honorabilité de mon caractère. Je veux être et je suis une femme comme il faut, non une femme entretenue. J'entends me réhabiliter par le travail et que vous m'y aidiez. Votre bon cœur réussira, je l'espère, à vous convaincre, car je suis décidé à tout pour sortir de l'impasse où vous m'avez mise. » Marie Bière. L'accusée explique qu'en effet, elle ne voulait pas être à la merci d'un caprice qui fait suspendre sa pension. Elle voulait donner des leçons, et elle mettait M. Gentil en demeure de l'aider à s'installer. « Et vous avez également dit que vous étiez décidé à le tourmenter. » « Mais oui !» Cet homme m'avait martyrisé pendant 2 ans. Il avait maudit mon enfant. Il était la cause de sa mort. Je ne lui ai jamais pardonné. Mais il n'avait aucun bon sentiment, aucun. Mais n'avez-vous pas plutôt voué à votre amant une haine mortelle parce qu'il refusait de vous épouser? Oh non, je n'ai jamais eu cette pensée. Enfin, vous étiez mécontente de vous-même. Vous aviez fait longtemps preuve d'une vertu parfaite. Vous aviez succombé. Vous voyiez votre avenir perdu. Votre voie était brisée. Votre famille vous reniait. Alors, dans votre exaltation, vous avez voulu tirer vengeance de l'homme qui vous détestait. Cette exaltation était arrivée à son comble. Et le cahier de notes intimes qui a été saisi chez vous en est la preuve. Voici quelques-unes de ces notes. 10 novembre. Il y a 7 mois que ma fille est morte. Robert m'envoie quelque argent et s'imagine que je peux vivre de cette vie. Non, 1000 fois non, j'ai résolu de mourir. Mais je ne veux pas qu'une autre femme soit la mère de ses enfants à lui. Et pour cela, il faut que je le tue. 21 novembre. Il vit encore, les forces m'ont trahi. 2 fois, j'ai pressé la détente sans résultat. 13 décembre. Oh, je ne veux pas vivre de charité. Je ne veux pas vivre de prostitution. Je veux mourir, mais je veux qu'il meure avant moi. Vendredi 17. Je l'ai vu, mais je n'ai pas pu le rejoindre. Oh, je te retrouverai, Robert. Noël. Mon petit Jésus à moi est dans la terre, il est pourri. Et je vis, moi, sa mère. Mais j'irai te rejoindre, enfant chéri. 3 janvier. Aujourd'hui, 3 janvier, je vais tenter la mort. Ma mère, pardonne-moi. 8 heures. Bon, il vit encore. À demain. Toute la journée, passée en voiture, à l'attendre devant sa porte, rien. Si, j'ai vu venir chez lui une femme grande, bien faite. Encore la femme d'un autre qu'il s'est offerte. Je veux sa vie, c'est pour venger ma fille. À demain, mon ange adoré, je te jure que je ne tremblerai pas. 6 janvier, veille du crime. Il a dîné en tête à tête avec Madame Nicolas du Palais Royal. Elle est repartie à 8 heures pour son théâtre. Un cocher maladroit l'a forcée en route. Robert m'est devenu tellement indifférent que si je n'avais à venger ma chère petite, je le laisserais vivre en paix avec toutes ces cabotines. Et c'est le lendemain soir qu'eut lieu l'attentat. En terminant, Monsieur le Président Bachelier demande de nouveau à l'accusé si elle reconnaît avoir conçu, préparé, prémédité le projet de tuer son ancien amant. Mais la jeune femme ponctue chaque mot d'un signe affirmatif.